Faut-il accepter les OGM dans l'alimentation humaine ou animale? Quelles sont les meilleures sources d'énergie que nous pouvons développer pour l'avenir? Faut-il accepter le nucléaire? Etc. etc. Notre société est traversée par de nombreux débats. Et ces débats sont des débats de société parce que ils concernent l'avenir de notre société, certes, notre avenir à nous, mais aussi l'avenir de nos descendants. Et ces discussions-là mettent en jeu différents axes qui sont mélangés, à savoir, il y a des aspects politiques, il y a des aspects économiques, il y a des aspects de cadre de vie, mais aussi des aspects scientifiques. Je suis scientifique et je vais vous parler uniquement des liens entre la science et l'opinion dans ce genre de débat. En effet, la science pourrait servir de base, l'espèce de base commune sur laquelle la plupart pourraient s'accorder et sur laquelle on pourrait construire ensuite son opinion qui pourrait ensuite diverger. Mais on le voit de plus en plus, la science n'est plus la base, elle est l'enjeu et plutôt, j'allais dire, le supplétif de ce genre de débat. On appelle à la science non pas pour essayer de voir clair, mais on appelle à la science lorsqu'on a besoin d'arguments pour justifier notre opinion a priori. Donc, si la science est nécessaire et si l'expertise scientifique est nécessaire, parce que personne n'a toutes les connaissances nécessaires pour traiter du nucléaire, des OGM, etc., eh bien, la pandémie récente, notamment, la notion de science a été dévoyée parce que on confond deux choses. On confond la recherche scientifique et on confère et on, avec la science. La recherche scientifique, c'est la démarche. C'est tout ce qui concerne l'activité de ceux qui trouvent, qui essaient, qui font des erreurs, qui se contredisent et qui est l'objet de débats. Normalement, dans le passé, ce genre de débat avait lieu dans le secret des laboratoires et des congrès. Désormais, il est sur la place publique et un chercheur en blouse blanche vient en se caressant la barbe vous parler de sa dernière découverte qu'il a faite la veille au soir. Ça, ce n'est pas de la science, c'est de la recherche scientifique. Et à la rigueur, quand un scientifique s'exprime dans ce cadre-là, c'est une opinion, peut-être un peu plus éclairée que les autres, mais c'est une opinion parmi d'autres. Parce que la science, c'est le consensus. Un fait scientifique, une théorie scientifique, dans ce cas-là, c'est lorsque la communauté des spécialistes du domaine se mettent d'accord pour dire que telle théorie, tel fait, eh bien, sont avérés dans le cadre des connaissances actuelles. Ça ne veut pas dire que c'est pour l'éternité. En effet, d'autres faits, d'autres moyens d'observation peuvent amener à corriger un peu. Mais un fait scientifique, c'est quand même la base, est quand même basé sur le consensus d'une certaine communauté de scientifiques. Il est évident que la meilleure façon de saper le rôle de la science, c'est de s'attaquer à cette idée de consensus et de faire croire que s'il n'y a que quelques personnes qui sont d'un avis contraire, faire croire qu'ils représentent une majorité ou une minorité extrêmement puissante. Alors, dans le domaine de l'énergie, puisque c'est celui peut-être qui nous concerne le plus actuellement, qu'est-ce qui fait l'objet d'un consensus? D'abord, eh bien, il y a le fait qui fait consensus actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, c'est le changement climatique soudain. Qu'il y ait des changements, des évolutions du climat, ça, tout le monde s'accorde que c'est naturel. Sauf qu'elle se passe actuellement avec des échelles de temps qui sont incommensurables avec celles qu'il y avait dans les époques géologiques. Donc, en quelques années, et nous l'observons autour de nous, il y a une évolution du climat qui n'est pas, j'allais dire, naturelle, qui ne résulte pas des évolutions géologiques ou autres du passé. Et l'origine anthropique, qui même si elle est contestée par certains de ce changement climatique, est de plus en plus avérée. Parmi les raisons principales, on pourrait dire que les nombreuses publications, les nombreux modèles qui ont été élaborés dans ces dernières dizaines d'années s'avèrent extrêmement prédictifs puisque les évolutions du climat que nous observons actuellement sont celles qui avaient été prédites il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Et j'allais dire, elles correspondent presque à la limite maximum que l'on craignait peut-être dans ces modélisations. Donc il y a un consensus de plus en plus scientifique, j'allais dire, sur l'origine anthropique et la nécessité, pour d'autres raisons aussi, qui ne serait-ce qu'aussi que la préservation de la diversité de la vie, etc. Donc nécessité de quitter progressivement les combustibles carbonés, charbon ou pétrole, et de trouver d'autres sources d'énergie. Alors, la première source d'énergie que nous allons peut-être trouver, c'est certainement l'économie d'énergie, et c'est certainement la meilleure. Puis, énergie qui n'est pas utilisée, eh bien, est certainement une façon extraordinaire d'améliorer le bilan à l'échelle de la planète. Mais quand vous avez dans votre vie peut-être testé déjà, essayer de ramener de 10%, de baisser de 10% votre consommation d'énergie, cela représente déjà quelques changements dans votre vie. Or, tous les calculs prédisent qu'il faudra atteindre des chiffres de l'ordre de 40%, et ça représente un changement complet du cadre de vie. Sans vouloir caricaturer, ça représente en gros revenir à un niveau de consommation d'énergie des années 50, 50, 60. Donc, il est clair que l'économie d'énergie, qui est vitale et nécessaire, ne sera pas seule suffisante et qu'il faut développer de nouvelles sources d'énergie. À l'encontre du pétrole et du charbon, qui sont des ressources énergétiques de stock, puisque c'est un stock qui a été construit par la Terre il y a quelques millions d'années et que nous, dans lequel nous piochons allègrement et qui, bien sûr, aura tendance non pas à disparaître, mais quelque part à s'amenuiser et faire que les ressources dans ce stock seront de plus en plus difficiles à mobiliser. Donc il faut trouver d'autres sources d'énergie et on retrouve les énergies de flux. Qui sont celles qui ont été celles de l'humanité au départ, lorsqu'elle a découvert le rôle de l'eau, du vent, etc. Et puis plus récemment, le rôle du noyau atomique et peut-être un jour le rôle de la fusion. Donc ces nouvelles sources d'énergie vont être nécessaires, et notamment si on veut atteindre, si on atteint les objectifs de consommation d'énergie, qui tous prévoient aussi un recours à l'électricité comme étant la source secondaire d'énergie principale. N'oublions pas que les prédicules pensent va falloir doubler la production électrique dans les 10 à 20 ans, 30 ans à venir. On mesure donc l'effort d'imagination, l'effort technique, l'effort technologique, l'effort scientifique. Mais l'effort scientifique est à long terme. Il va falloir trouver des solutions à plus court terme, en attendant peut-être qu'un jour la fusion où l'hydrogène vert apporte une solution plus pérenne à ce problème-là. Le propre de ces énergies dites de flux, c'est qu'elles sont extrêmement diluées. Contrairement au pétrole et au la houille, qui sont des concentrés d'énergie qui ont été concentrés par la nature pendant des siècles et des millénaires même, eh bien, le vent, l'eau, etc., sont des sources d'énergie qui sont très diluées. La conclusion, c'est que pour les capter, il faut les concentrer. Et pour les capter et les concentrer, il faut des dispositifs qui prennent beaucoup de place. À chaque fois qu'on essaie de faire des comparaisons entre la quantité d'espace occupée par une centrale nucléaire et l'équivalent en éolienne ou en panneau photovoltaïque, on voit la différence. Il y a des rapports énormes d'espace occupé. Donc, les nouvelles sources d'énergie que nous devons développer sont des sources d'énergie qui vont nécessiter de grands espaces et qui vont avoir un impact sur nos paysages et sur nos cadres de vie. Il est évident, par exemple, qu'après la guerre, lorsqu'on a construit les grands barrages sur les fleuves dans les Alpes, ça a eu un impact énorme qui a amené à disparaître des villages, presque des vallées entières. Donc là aussi, si on va en atteint, si on se limite à l'énergie qui nous sera nécessaire, notamment basée sur des énergies en flux, eh bien, il faudra accepter que ça a un impact sur nos cadres de vie et sur nos paysages. Et bien sûr, il faut chercher à minimiser cet impact-là. Deuxième aspect aussi qui découle de ces considérations-là, c'est la notion de relocaliser la production d'énergie. Actuellement, la Bretagne, par exemple, et l'ouest de la France sont irrigués par de l'électricité qui vient d'où? Qui vient de Cherbourg ou du Cotentin, qui vient de Chinon, qui vient de Poitiers autour de Civray, ou qui vient de la centrale thermique dans l'estuaire de la Loire. Et tout ceci irrigue en électricité, puisque la Bretagne a peu de ressources propres. Eh bien, ceci se traduit d'une part par des grandes déperditions, puisque le transport de ces énergies sur des longues distances provoque des déperditions. Et là aussi, on peut estimer que les lignes à haute tension qui seront nécessaires de construire vont aussi sillonner et un petit peu défigurer les paysages à venir. Eh bien, cela veut dire qu'il faut tendre de plus en plus à avoir des énergies qui seront produites plus localement, et donc des énergies qui vont nécessiter un méthaniseur ici, peut-être des éoliennes dans la mer, peut-être des panneaux photovoltaïques ici. Le scientifique n'est pas amené plus qu'un autre à dire quelle est l'énergie la meilleure et qu'est-ce qu'il faut faire. Simplement, il peut donner le cadre général et indiquer que la localisation de la production d'énergie à l'échelle de la commune, à l'échelle de la région, va devenir de plus en plus un impératif. D'où ces débats-là, puisque bien sûr, chacun est conscient et aime son cadre de vie et n'accepte pas de le voir modifié. Donc, il va y avoir des débats pour savoir où implanter et comment implanter ces ressources locales d'énergie. Alors, pour terminer, eh bien, je pars des considérations qui sont liées à des découvertes ou à des études très récentes sur la psychologie, puisque dans ces débats-là, nos cerveaux ne sont pas des machines rationnelles qui analysent les choses rationnellement, qui trient les problèmes et puis qui ensuite prennent des décisions, j'allais dire, sensées éventuellement. En effet, notre cerveau est une machine émotionnelle. Et donc, il y a des tas de biais, dits des biais cognitifs, que l'on retrouve en de multiples exemplaires. Le biais cognitif le plus évident dans tous ces débats concernant par exemple les énergies, eh bien, c'est le biais de confirmation. Une fois qu'on s'est fait une opinion sur un mode d'énergie ou sur le fait que tel mode de production d'énergie ne doit pas être développé dans mon environnement, une fois qu'on s'est fait cette opinion-là, eh bien, le biais cognitif fait que notre cerveau va filtrer tous les arguments, uniquement les arguments qui vont abonder dans mon sens. Et les arguments qui vont en sens contraire seront, j'allais dire, passés sous silence. Il y a énormément de biais quand on s'analyse de cette nature qui font que les débats, au lieu d'être des débats a priori rationnels et sur la base la plus possible objective au départ, eh bien, sont souvent des confrontations d'opinions toutes faites dans lesquelles la science n'apporte rien, simplement apporte des cautions. Sachant que quand on veut enfoncer l'adversaire, eh bien on va toujours trouver soit un scientifique particulier qui a émis une opinion dans notre sens, ou soit trouver une publication parmi les millions qui sont faites dans l'année, la publication qui va aussi dans mon sens. Donc tout ceci sont des biais dont il faut se départir au maximum. Et je conclurai en plaidant pour la nécessité du doute. Actuellement, le doute, il est très répandu, mais c'est le doute, j'allais dire, le doute du relativisme scientifique, c'est-à-dire dans lequel chaque opinion doute des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas la même opinion que moi, c'est qu'il est vendu, c'est qu'il est pourri ou c'est qu'il est mal informé. J'ai raison, et donc je doute que les autres aient des arguments qui soient valables. La science, ce n'est pas ça. La démarche scientifique, c'est le doute, mais le doute rationnel et le doute de soi. Le scientifique, comme disait Gaston Bachelard il y a un siècle, c'est celui qui doute de lui-même d'abord, qui essaie justement de se départir de ce biais cognitif et qui essaie de dire, à chaque fois qu'un argument va dans son sens, essayer de le trier, de l'analyser avec la même rigueur que les arguments qui sont contraires. Donc le doute scientifique, le doute rationnel, devrait être le moteur de nos débats de société. Et tout en ayant en vue l'idée que nos cerveaux ne sont pas des machines. Et après tout, sur ces bases à peu près saines et rationnelles, chacun peut construire son opinion, et toutes les opinions, bien sûr, à ce moment-là, sont respectables. Bon courage pour ces débats-là.